Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marlowe et Jean-François Breton. Épisode spécial, vous n'êtes pas seul.
Non, nous ne sommes pas seuls. On est déjà nous deux, mais on a reçu une bonne partie de l'équipe du film. Réalisateur et scénariste, co-scénariste, donc Marie-Hélène Vien et Philippe
Lupien.
La productrice Fanny Malo, très intéressant aussi d'avoir cet aspect différent.
Oui, parce qu'on en reçoit rarement quand même des producteurs, fait que c'est toujours intéressant d'avoir leur son de cloche aussi.
Oui, c'est ça. En fait, des fois, ils sont un peu hors micro, mais ça ne leur tente pas de participer. Des fois aussi, il y a juste vraiment trop de monde, mais là, ça fitait très bien, puis elle était très volontaire. Ouais. Et les têtes d'affiche, donc Pierre-Luc Funk et Marianne Fortier, qui sont deux comédiens encore très jeunes, mais qui font ça depuis très longtemps,
oui,
déjà,
même.
Les deux ayant commencé dans leur jeune adolescence.
Et même pré-adolescence.
Je ne voulais pas m'obstiner sur à quel âge ça commence.
Ben, Marianne devait avoir comme 10 ans, 10, 11 ans, peut-être.
Okay, c'est ça,
puis Pierre-Luc en était
11, 12, peut-être.
En tout cas. Mais bref, ils ont du métier quand même.
Ce que je veux dire, peut-être que vous n'êtes pas seul, vous dites c'est quoi ce film-là, j'ai pas entendu parler de ça. C'est un film qui mélange un peu comédie romantique et science-fiction. Il y a des extraterrestres, ou du moins un, dans le monde actuel. Il y a deux personnes très un peu brisées, solitaires, surtout le personnage de Pierre-Luc Funk, Léo, qui est un... On sent qu'il s'est pas remis d'une ancienne rupture. À cette heure, il livre la pizza de nuit, très isolé, et va vraiment tomber en amour, avoir un coup de foudre pour le personnage de Rita, joué par Marianne. Mais au travers de ça, se fait pourchasser par un étrange chauffeur de taxi, joué par François Papineau, qui semble lui vouloir du mal et utiliser peut-être des espèces de portails étranges pour s'emparer de lui ou quoi que ce soit. Fait que plane le mystère autour de cette nouvelle... relation-là. Fait que c'est pas un film qui est comique, c'est un film qui est plus vraiment entre la romance et ce côté sci-fi et ce mystère-là. Mais on n'est pas comme dans Vampire humaniste, mettons.
Non,
là,
non.
C'est pas de l'humour noir, là.
Non, dans un ton plus dramatique. Donc, sans plus tarder, ben, on y va avec nos invités.
Oui, écoute, puis vite de même, je sais pas dans quel ordre je le mets, fait que découvrez. Puis on s'est vraiment laissé emporter aussi, dernière parenthèse, on dirait qu'on aurait pu faire une heure avec chacun de c'est pas les cinq ensemble, là, avec les deux comédiens, puis avec les trois plus à la production, on dirait qu'on aurait pu faire très longtemps, fait que ça va peut-être donner un genre de 45 minutes pour tout ça. Mais je vous jure que c'est intéressant, on parle du film, on parle du métier, on parle de leur vision du projet, etc. Fait que voilà. Puis le film, donc, Vous n'êtes pas seul, prend l'affiche le 18 octobre dans les cinémas du Québec et on vous encourage fortement à aller voir ce film-là, pas par pitié, mais parce que ça vaut vraiment le détour. C'est un film qui est esthétiquement et au niveau du son, au niveau de l'image, tout on en discute, que tout est vraiment réfléchi là-dedans. C'est pas juste... faire un premier film pour faire un premier film. Ils ont fait beaucoup de courts-métrages, ils ont réfléchi, ils ont maturé leur projet, essuyé quelques refus avant d'arriver vraiment à quelque chose qu'on sent qui est final pour eux. Et on parle aussi, évidemment, de la présence très forte de la pièce Hélène de Rock Voisine.
Bien sûr, oui. Et il faut souligner aussi quand même que Marianne et Pierre-Luc forment un duo vraiment exceptionnel. Ils sont très, très bons à l'écran.
Oui, ils pourraient gagner le MTV du meilleur baiser.
Oh yeah!
Voilà.
C'est avec grand plaisir qu'on accueille Pierre-Luc Funk et Marianne Fortier dans le balado. Merci
bien
de venir.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais savoir.
Moi, j'ai une question. Avant d'entrer dans le film,
mon Dieu, okay.
Vous partagez un lien très spécial.
Oh.
Être des comédiens, comédiennes qui ont débuté comme des enfants stars dans le cinéma.
Ouais.
Est-ce qu'il y a une poignée de main secrète que...
On dirait que là, je suis déçu qu'on n'avait pas inventé quand on était jeune. Mais non, c'est...
Il faut qu'on l'invente maintenant.
OK, parfait, on se met là-dessus, on se met sur le projet.
Ouais, puis c'est juste audio, fait que même si vous auriez pu la faire, puis on l'aurait pas.
Et voilà, hop.
Wow!
Ouais, c'est impressionnant.
Oui.
Non, mais oui, on se connaît. C'est ça qui était fou, c'est que, tu sais, je me rappelle, on faisait de la promotion de... Moi, c'était mon premier film. Marianne, c'était pas ton premier. Là. C'était comme... je sais pas ton combien de
films.
Deuxième.
Ouais.
Mais on s'est comme... Après
Maman chez le coiffeur qui est sorti en même temps qu'un été sur
Ah
film.
Oui,
ouais,
okay.
Fait qu'on se suivait. Ben non, mais c'est parfait. On se suivait en même temps, puis on faisait la promo de nos deux films. Puis on se connaît depuis ce temps-là, depuis que j'ai comme 12 ans, je connais Marianne, puis on n'avait jamais travaillé ensemble. Puis c'est la première fois qu'on se retrouvait à l'écran ensemble.
Hey, ça fait plus que la moitié de notre vie qu'on se connaît, mais qu'on se connaît pas. En fait.
Oui, c'est ça, là, Marianne, qui se passe.
C'est ça qui arrive.
C'est ça, même à la télé, vous n'avez jamais joué ensemble?
On n'a jamais été même sur le même projet.
OK.
On s'est pas croisé sur une feuille de service.
Vous n'avez pas auditionné pour le même rôle?
Non.
J'ai auditionné pour Sarah, puis malheureusement, je ne me suis pas rendu très loin. Mais c'était dommage là, pour moi.
Là. Mais je jouais dans les séries concurrentes de Vrac, qui était Jérémy, puis Le Chalet.
T'étais dans Jérémy?
Oui, ouais, j'étais dans Jérémy, moi.
T'étais sur... Ah ben, ma maudite!
Moi, je suis au courant parce que j'ai une fille ado, puis elle écoutait les...
Ah oui, c'est ça.
Ben écoute, si vous n'avez pas été juste les cinq dans Le Chalet, j'aurais peut-être pu jouer dedans.
Ben non, c'est ça, mais moi, j'étais le outsider de la gang.
Comment ça?
Ben non, mais j'étais comme le septième de la gang.
Ah, oh, vous étiez...
C'était pas celui qui
était le chum en périphérie.
Il se fait pas appeler, il faut qu'il appelle les autres pour savoir s'il se passe de quoi.
Ben il y avait une joke à propos de ça, parce qu'il y avait il faisait souvent des billboards, il faisait les photos pour la promo, puis j'étais tout le temps le gars qui était pas sur le billboard. C'était comme toute la gang, sauf moi.
Ouais, c'est au moins, il y avait, mettons, quatre exclus, tu sais.
C'est ça, mais j'étais le seul, tu sais. J'étais
là de saison en saison. Le surnuméraire.
Un vrai plouc.
Un vrai plouc. C'est comme ça qu'on m'appelle.
Et comment s'est fait cette rencontre? Comment s'est opérée cette rencontre sur ce film-là? Avez-vous auditionné? Vous
non.
Vous approché directement?
Bien, on a eu le grand cadeau, en fait, de se faire offrir les rôles. Puis c'est surtout Marie-Hélène, dans ce qu'on a compris, qui faisait de la recherche et qui a regardé, qui a épluché nos entrevues télé et tout pour essayer d'apprendre à nous connaître, j'imagine, je sais pas trop. Puis elle a perçu en nous quelque chose qu'on montre pas nécessairement à la télé, j'ai l'impression. Mm-hmm. Elle a comme vraiment saisi qui on est pour vrai, dans la vraie vie. Fait que c'est à nous qu'elle a offert les rôles. Puis on savait même pas nous-mêmes que ça serait le fun de tourner ensemble. Puis on dirait qu'elle, elle le savait.
Moi, je me rappelle, on l'a su, on faisait une lecture. Ben, on l'avait su avant, mais on a comme fait une lecture. Parce qu'au début, ça a été un long processus. Là. Je sais pas si tout le monde est au courant, mais ça a pris 10 ans avant que ce film-là se fasse, tu sais. 10 ans de travail, de refus à la SEDEC, à Téléfilm, puis tout ça. Puis moi, dans les 4 dernières années à peu près, moi et Marianne, on a été comme impliqués à dire qu'on voulait faire des lettres d'intention, puis on disait si jamais le film se fait, on va jouer dedans. Mm. Puis là, on avait essayé de faire une lecture filmée, comme pour essayer de faire comprendre le ton aux gens, puis de qu'est-ce que ça donnerait. Puis c'est la première fois qu'on a comme travaillé ensemble. Puis là,
à cette lecture-là.
Okay. Ouais.
Qui date de combien d'années?
C'est, qui était, bon Dieu, il y a genre 5 ans?
Ah oui?
5,
ben
6
non,
ans?
C'était-tu avant la pandémie?
C'était pendant la pandémie.
Ouais, c'était pendant la pandémie.
Ouais, c'était pendant la pandémie.
Fait que ça fait pas 5 ans. Mais, tu sais, on n'avait pas de masque. Fait que c'était pandémie, pas okay. Trop pire.
Souple.
Mais oui. Ça pandémie fait un bout quand même. Ouais, c'est ça.
Mais ouais, mais moi, c'est... Ça a vraiment... Moi, j'ai vraiment... Je le dis souvent en entrevue, là, elle va pas être surprise de l'entendre, mais moi, j'ai vraiment capoté de travailler avec Marianne à quel point je pense que si les gens nous connaissent, ils vont dire qu'on est deux personnes vraiment différentes.
Ouais.
Puis la première affaire qui nous a accroché, c'est toutes nos similitudes face à... On travaille de comédien, puis de comment approcher une scène, puis de comment essayer de tout le temps la rendre meilleure, puis qu'est-ce que... À vouloir peaufiner des détails de virgule, de respire, à essayer de rendre la scène... La meilleure possible. Puis on s'est tellement retrouvés dans cette énergie-là que moi, ça a été comme un coup de foudre professionnel hallucinant. Là.
Ouais, puis vous avez quand même un bon
partagé
nombre de scènes ensemble aussi là, dans le film. Là. C'est pas juste les deux faces sur l'affiche, mais quasiment la
non,
moitié
non, on se croise
film,
une
couple
de
ça
fois dans le film.
Oui.
Puis c'est un ton quand même assez unique comme film. Justement, comme tu as dit, les institutions avaient besoin de se faire prouver c'est quoi exactement. Vous n'êtes pas seul, de se faire démontrer peut-être. Est-ce que vous aussi, à premier abord, c'était comme c'est une comédie, c'est un drame, c'est quoi exactement? Ou vous aviez eu le pitch avant de lire le scénario? Je sais pas.
Non, moi j'ai
non, pas de pitch.
Pas de pitch, rien. Puis je pense que c'est ça qu'ils ont bien fait, en fait, de pas nous pitcher rien. Fait qu'on a juste reçu le scénario. Moi, je me rappelle. Je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de scénarios dans le bain.
T'es
un gars de bain. Là, j'ai pris mon bain, là, j'ai lu le scénario. Là, plus je le lisais. Puis, justement, je suivais le film comme si je le regardais pour la première fois. Puis, je pense que c'est ça qui est le fun. Puis là, tu découvres toute cette espèce d'univers un peu obscur, de comme, ben pas obscur, mais comme un peu étrange, de comme des extraterrestres. Puis là, t'es comme, il y a des gens qui se font kidnapper, puis tout ça. Puis après ça, tu tombes dans un film ultra réaliste où t'as un gars un peu tout seul qui est pas dans la meilleure passe de sa vie, qui lit de la pizza de nuit. Puis là, après ça, c'est plus le film avance, plus tu vois que ces deux univers-là se rapprochent. Fait que. Je pense que c'était vraiment la bonne façon puis le bon angle de présenter la science-fiction dans un film ultra réaliste. Fait que t'as pas l'impression de faire une pâle copie d'un film d'extraterrestre, mais justement le bon film avec le bon angle qui raconte la bonne histoire avec cette science-fiction-là puis cette romance-là entre les deux personnages.
Mm. Et qu'est-ce qui vous attirait dans ces personnages-là, justement?
Ben, dans les personnages, mais aussi, j'allais rajouter par rapport à la lecture du scénario et tout, moi, je trouvais que c'était hautement visuel comme écriture. En tout cas, moi, j'ai besoin de voir. Je travaille avec les coups de cœur, mon envie. Fait que là, mettons, j'ai lu le scénario, puis on dirait que je voyais les... Ben, c'était pas ça pantoute, finalement, là, mais peu importe. L'intérêt était de lire ça, puis de voir comment... d'imaginer une mise en scène, d'imaginer les lieux, d'imaginer les couleurs. Puis ça m'a vraiment fait triper tout de suite. Il y avait comme une ambiance, il y avait un mood vraiment spécial. Puis ça m'a fait triper. Mais pour les personnages aussi, ben je sais pas, j'étais vraiment tout de suite... j'ai eu un coup de cœur pour ces deux personnes-là qui font donc bien leur possible, tu sais.
Ben, c'est effectivement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ton personnage. J'oublie les noms.
Rita.
Rita. Que, tu sais, les deux sont assez coincés, puis si Rita prenait pas le lead, là, mettons, mm-hmm. là, ça serait au point mort, puis les deux, ça serait dit bye-bye mm-hmm. à la sortie de l'auto, puis ce serait comme jamais revu, mettons, tu sais.
Ouais.
Ça prenait quelqu'un qui fait comme « Ah, vas-y », puis peut-être parce que c'est souvent ce qui m'est arrivé dans ma vie personnelle. Là,
d'être Rita ou d'être Léo?
D'être Léo, puis okay. ça a pris les filles puis mes blondes qui fassent comme
ouais. On va y retourner.
On s'embrasser. Ouais. Okay, moi, j'avais vraiment peur d'être comme pas inadéquat, là, mettons. Là.
Mais c'est ça qui est cool, parce que je pense que les gens, quand ils voient le film, en tout cas, dans nos expériences de visionnement qu'on a eues à date, il y a plein de monde qui vont vraiment rapidement voir un des deux personnages puis faire « Oh mon Dieu, c'est tellement moi mm-hmm. », des façons de réagir et tout. Les gens, ils se reconnaissent vraiment rapidement dans les personnages. C'est ça que je trouve beau aussi, que c'est comme tellement réaliste, tellement... sobre même comme jeu, tu sais, très très
je trouve, naturaliste. Moi, c'est ça, c'est que je le trouve vraiment vrai, ce jeu-là, cette maladresse-là. Ouais. Puis même si t'es quelqu'un de confiant dans la vie, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'à un certain moment, t'as vécu cette espèce de fébrilité-là, de « je suis pas sûr, j'espère qu'il... » Puis ce que j'aime dans le jeu, c'est que toute cette maladresse-là devient charmante, puis là, tu comprends ce qu'ils voudraient se dire, mais qu'ils se disent pas, puis là, tu sais, puis je pense que c'est... il est tout... Je pense que peu importe si t'es confiant ou pas confiant, je pense que t'as pas besoin d'être quelqu'un de gêné pour t'identifier à ce genre de scène-là, de fébrilité, d'être devant quelqu'un sur qui tu tripes, puis que t'es pas capable de le dire, puis que la gêne, elle te fait en sorte que tu pèses chacun des mots que tu vas dire parce que tu veux faire rire, tu veux pas rendre mal à l'aise, tu veux... Tu sais, je pense que c'est tout le beau des premiers papillons, tu sais, puis... Puis ça fait peur aussi, la peur qui vient avec les premiers papillons, c'est pas juste beau, là, tu sais, je veux dire, une première date, là, moi, je... Je suis pas juste bien, là.
Ouais,
je suis shaké, là.
Ça passe vite, mais c'est long en même temps. Là. C'est long des petits bouts, là. T'sais.
Voilà, question qui tue. Est-ce que c'est gênant de chanter sur un plateau?
Ouh! Je pense que ça dépend pour qui. Moi, je vais dire oui.
Ben là, tu sais que moi aussi, j'ai trouvé ça gênant.
Oui, mais est-ce que je peux te dire ton truc?
Quoi? Oui, ben oui.
C'est... Moi, j'ai chanté live devant les gens du plateau. Mm-hmm. Marianne, elle chantait pas live.
Ouais, ça avait l'air, ça sonnait très bien. Fait que ça,
ben, c'est pas. Qu'à la base, j'étais supposée chanter live
okay.
Avec... devant tout le monde parce qu'il y a une scène de bar dans le film. Ouais. Je joue avec mon
band. C'est-tu filmé à Rimouski pour vrai, ça, je me demandais? Non. Ah, c'est ça. Je connais pas assez la plage. Je savais pas si c'était comme un bar mythique avec les miroirs ou je sais pas quoi. Mais...
Non, mais non, c'est la magie du cinéma.
Ouais, ben, mais je comprends justement que ça aurait été comme ultra coûteux d'aller à Rimouski juste pour une scène d'intérieur.
T'avais filmé en dedans à Rimouski. Ouais, ça a été un long trajet, mais tout le monde était bien content d'avoir l'authenticité de Rimouski.
On voit même pas au travers des vitres, mais c'est à Rimouski.
Ben, c'est ça, puisqu'on entend l'inverse, c'est pas qu'il y a trop d'argent en cinéma, hein, généralement. C'est qu'on
non,
manque
c'est ça,
de budget.
C'est souvent ça qui arrive, malheureusement.
C'est sûr. Bref, surtout pour des premiers films.
Tu devais chanter live.
Je devais chanter live, en fait. Puis finalement, j'avais comme enregistré un truc un peu. À dernière minute avec le preneur de son dans son studio. Puis on avait donc cette track-là pour que je puisse me guider, puis qu'on sache avec le tournage bien faire nos affaires. Là, ouais, c'est ça. Puis finalement, pour la mise en place, on l'a mis. Puis finalement, on l'a juste tout le temps mis. Puis moi, j'étais comme « Parfait, merci! » Ça va être ça.
Est-ce que tu chantais quand même un peu? Parce que
je chantais par-dessus.
Parce que si tu fais purement lip-sync sans sortir un son de ta bouche...
Non, je chantais par-dessus parce que ça paraît, je pense, dans le corps.
Ouais, sinon ça a l'air mou.
Ouais, c'est ça, exact. Ça. Fait que je chantais super fort par-dessus, mais tu sais, c'était quand même ma voix. La première fois qu'on l'a mis, j'étais comme « Oh mon Dieu! »
Ouais, puis c'est vraiment une interprétation guide-voix super sobre. Là, fait, mais oui, mais c'est...
Arrête pas de dire que je suis gênée de chanter.
Mais je sais pas pourquoi. J'ai toujours chanté toute ma vie, puis même... chez nous, je dis chez nous parce que le clap pour moi,
Québec,
c'est
toi,
oui,
c'est ça.
Ça. Puis ici, le clap pour moi, c'est légendaire. Là. C'est le début de mon intérêt pour le cinéma.
Et surtout tout. L'époque en pyramide
oui,
humide.
Bien sûr, oui, oui. Pyramide humide. Exact. En tout cas, mais bref, je fais une parenthèse, mais c'est parce que je pointais là parce que mes parents habitent à côté. Puis je chantais sans cesse, mais tout le temps les mêmes paroles. Puis ma mère, elle me disait tout le temps dans la maison, charge de disque, parce que je chantais. Sans cesse.
Est-ce que tu chantais du rock voisine?
Oui. Non.
Ah, OK. Ça aurait été...
J'aurais pu dire oui.
Ça aurait été
la magie du cinéma. Non, c'est ça. Puis c'est ça, donc j'ai toujours chanté, mais j'ai comme jamais chanté vraiment devant du monde.
Je le dis. Je tiens à le dire. Moi, j'ai chié dans mes culottes de stress de chanter.
Ah!
C'était stressant.
Mais là, t'avais le...
Mais pourtant, tu chantes tout le temps maintenant.
Ouais, le défi de l'instrument en plus.
En plus, ça, là, je veux dire, moi, j'avais commencé à essayer de gratouiller. Moi, j'ai vraiment... Il y a beaucoup de similitudes dans ma vie, okay. Celle de Léo. Moi, j'ai vraiment essayé d'apprendre à jouer de gratouiller un ukulélé pendant la pandémie, là, de me faire un petit projet sur le side. Là.
Je pense qu'il y a eu un côté, avec l'essor du ukulélé, je sais pas si c'est le son qui est apparu hawaïen ou juste ça a l'air plus facile qu'une guitare.
Moi, moi, te le dire, c'était ça mon intérêt. Ça. Ça avait l'air plus facile que d'apprendre à jouer du saxophone. Là.
Oui, bien, ça oui.
Puis, non, mais je l'ai pratiqué, là, je l'ai en avoir mal aux doigts. Puis, je veux dire, là, la scène en plus où je dois chanter Hélène, c'est elle est quand même ultra chargée. Puis, c'est comme elle pesante en émotion. Puis là, tu fais ça devant. Tout le monde, puis le réalisateur en plus, il est musicien, puis lui, il est super bon, puis là, moi, je voulais pogner la note, là, tu sais, puis je... là, j'étais devant tout le monde, devant François Papineau, puis là, j'essayais de chanter la tune, mais ça s'est bien passé, j'étais vraiment content, mais moi, j'étais...
Mais ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps, ouais. Là, la scène d'émotion, tu chantes avec l'instrument.
Tu joues en même temps.
C'est ça, prend, c'est ça fait beaucoup de prises, puis tout, justement, d'être comme à 100% dans toutes les zones, là, genre,
ça n'a pas pris tant, je pense que ça en a pris 5.
OK.
Mais ça a pris vraiment beaucoup de répètes chez nous tout seul. Tu sais, je veux dire, comme...
Avec des petites passes où tu te sens un peu misérable. Tu sais, t'es comme,
ah oui,
tu vas y arriver.
Puis surtout...
Est-ce que je vais saboter le film parce que je suis pas capable
surtout,
de faire un changement d'accord? Là, oui.
Rock, il va le voir, le film. Là.
Et justement, qu'est-ce qu'il en a pensé?
Ben moi, je suis super content parce que, tu sais, Rock, il était super fan de... Justement, il était vraiment présent dans le processus, puis... Non, c'est pas un punch. On peut dire qu'il y a un caméo dans le film.
On fera un avis dans l'introduction.
Ouais, c'est ça. Il y a un caméo, fait que je savais qu'il allait voir le film. Puis là, je sais qu'ils l'ont montré à son équipe avec Marie-Hélène et Philippe, les deux réalisateurs. Puis là, il a dit, comme, vous direz à Pierre-Luc, super bonne interprétation de Hélène. Puis là, j'étais comme, OK, yes, je suis rock approved.
Mais en plus, je pense que le ton est changé, sûrement pour que ça fitte mieux avec ta voix, là, j'ai l'impression. Mais...
Ah, ça,
ça c'est mon côté musicien, là, j'ai l'impression que c'est pas la même hauteur.
Ben,
que...
Tu pourrais me l'annoncer en ce moment. Moi, je
mais
pourrais
peut-être
pas
c'est
dire...
aussi pour le ukulélé, les notes étaient peut-être plus faciles.
C'est ça,
à...
Je sais pas si on changeait le ton. Mais peut-être, là. Peut-être qu'il était comme, tu l'auras jamais, Pierre-Luc, c'est inatteignable.
Ouais, c'est
la
trop
note.
Gros, fait que là, t'es empoigné en voix de tête, puis là, ça marche pas.
Mais pour vrai, cette scène-là, moi, c'est une de mes scènes préférées. C'est vraiment le moment dans le film où je pointe tout le temps le moton. C'est comme, ça me shake à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment beau.
Justement, en parlant de toutes ces émotions-là, tu parlais précédemment qu'à ta lecture, tu voyais, je ne veux pas paraphraser ce que tu as dit il y a 5 minutes. Là,
mais
fait. ça peut être un peu lourd à l'écoute. Là.
Okay.
Mais comme ce que tu imaginais à la lecture du scénario, est-ce qu'après ça, il y a quand même un risque de ça être comme monter un bateau et dire ah, ça va être fou, je le vois de même, mais c'est pas toi qui réalise le film ou quoi que ce soit, puis de voir le produit final puis de faire un peu comme ah, ouais, c'est correct, mais c'est pas ça que j'envisageais.
Je suis bien flexible de ça, mettons. Fait que pour moi, c'est important de le voir, puis après ça, je le réécris tout. Tu sais, il y a comme une réécriture dans le corps, là, je sais pas comment dire, mais après, quand tu arrives sur le plateau, tu vois les lieux, tu te réappropries tout l'espace, puis au final, le film, c'est sûr que c'est 1000 fois mieux par Marie-Hélène puis Phil que l'affaire que je me suis imaginée quand je l'ai lue, tu sais, c'est pas...
Ouais, puis ils l'ont remâché pendant 12
ben,
ans.
Ben, c'est ça,
ans,
exact. Ils ont pensé en masse, mais en tout cas, c'est ça.
C'est assez singulier, je trouve. Ça fait pas si longtemps que j'ai réalisé comme, tu sais, on dirait que les comédiens, les Brad Pitt puis tout, tu le vois dans son film, puis t'es comme, ah, il a participé au film, mais je sais pas comment dire, vous arrivez sur un plateau qui est beaucoup plus grand que le construit final du film d'1h45, puis vous vous offrez des performances, puis vous essayez des lignes, puis des intentions, mais après, il y a rien qui vous appartient, tu sais, c'est comme... vous ouais. donner du matériel pour qu'après, eux, ils aillent faire du montage, puis mettre de la colo, puis mettre de la musique, puis dire
exact.
J'espère que ça va être ton affaire. Moi, j'ai mais fait ma job.
C'est pour ça aussi, je pense que, tu sais, ben, surtout, toi, moi, Marianne, je pense qu'on est un peu des gens aussi qui aiment ne pas se mêler de leurs affaires, tu sais. Je pense qu'il doit y avoir des comédiens qui font juste arriver sur le plateau, puis qui font hey, moi, ça va être ça, mettons. Puis après ça, tu feras bien ce que tu veux avec, mais moi. Je pense que justement, j'aime ça, savoir c'est quoi leur vision. Si j'aime ça, m'ostiner sur je pense que la scène, ça devrait être ça. Je pense que la fin, ça devrait pas être ça. Je sais pas si cette réplique-là. T'sais, je dois être considéré comme quelqu'un qui pose beaucoup de questions et qui aime modifier les affaires parce que je pense aussi que il y a une bonne. C'est le travail de table qu'on fait avant le film aussi. Là, on a fait des lectures ensemble, on en a parlé du film, puis de savoir comment ils voyaient les scènes. Puis après ça, c'est sûr que. T'sais, tu peux autant être surpris que déçu dans ce processus-là. Mais je pense que quand tu t'entoures des bonnes personnes, t'es rarement déçu. Puis tu sais, je veux dire, on travaillait aussi avec Ariel Méthode, qui était le DOP, là, qui était à la caméra. Puis je veux dire, quand je regardais dans le moniteur, puis on voyait l'image, je capotais, mettons, sur ce que je voyais. J'étais comme, c'est tellement beau.
Puis c'est plus beau que tout ce qu'on aurait pu s'imaginer.
Oui, oui, c'est ça. Fait que
tout l'argent est à l'écran, là. Je sais pas comment je dis ça souvent, mais c'est moi je le trouve épatant le film, comment il est léché, puis la direction artistique, puis tout pour. C'est comme il est au-dessus de sa ligue, je trouve.
Mm-hmm.
Un peu par rapport au ça, budget, au set piece, à tout, mais tout est waouh, et beaucoup, hein, on en parlera avec eux tantôt, mais le retour au zoom, à toutes ces affaires-là, qu'il y a une petite mouvance, là. Monia Chokri l'a fait aussi dans ses derniers films, beaucoup, puis tout, puis ça vient vraiment dynamiser quelque chose qui aurait pu être. Super drabe, puis tu sais, du monde dans des chars qui parlent, puis tout, mais finalement.
Mais... C'est ça qu'il disait aussi, il était comme, on n'a pas le droit à l'erreur, par exemple. T'sais, pour que tout se passe comme on veut, puis que toutes les shots qu'on a en tête se passent, avec le budget qu'on a, c'est comme, on peut pas se tromper, il peut pas arriver un pépin sur le plateau, parce que sinon, on y arrivera pas.
Genre, il arrive pas à jouer sa toune.
Non, c'est ça, faut que tu sois prêt à la jouer, Hélène. Non, mais tu sais, c'est ça, fait eux autres, ils se sont mis dans une situation où ils étaient comme, on a un plan en tête, on veut l'exécuter, ça demande une prep incroyable parce que rendu sur le plateau, si on veut faire le film qu'on veut faire, on n'a pas le droit de se tromper parce que si on a un seul problème, on va tomber à côté de nos choses. Là,
Et comme ils étaient comme réalisateurs par rapport à la direction de comédien, est-ce qu'ils vous laissent quand même... beaucoup de lousse ou ils sont très précis dans ce qu'ils veulent?
Ouais. Ben, on a fait vraiment une belle équipe, franchement. En tout cas, j'ai trouvé... On était donc un quatuor. Tu sais, c'est le fun aussi de penser ça à quatre. J'ai vraiment aimé ça, moi, travailler avec un duo réalisateur.
C'est vrai
là,
que c'est comme pas quelque chose
de... Mais c'est ça, mais il y a quelque chose dans la réflexion qui fit vraiment avec nos façons de travailler aussi. Tu sais, tu disais qu'on aime ça questionner et tout. Moi, je veux comprendre. Je veux tout comprendre pourquoi je fais, qu'est-ce que je fais, tu sais.
Ouais.
Fait que j'ai oublié ta question, fait que je vais te laisser
parler. Non, mais
parler
comment
ils vous dirigent, finalement?
Mais
justement,
je pense que
c'est ça qu'on veut savoir. Sont-tu cancel?
Non, sont ultra doux. Je pense que même, tu sais... Mon Dieu, il y a beaucoup de suspense. Hein, dire, il y avait beaucoup de suspense dans ma réponse. Non, mais
c'est ton agent qui appelle.
Il fait dire, dis pas ça. Non, mais ils sont ultra doux. Vraiment gentil, vraiment...
Sensibilité hallucinante.
Exact, tu sais, puis là, tu sais, même que des fois, on était comme, hey, rentrez-nous dedans, tu sais, genre, dites-nous-les, là, ça va pas, on veut... Moi, j'étais comme, j'aime mieux que tu me dises une phrase tout croche puis qui risque de me choquer un peu que t'oses pas me dire quelque chose au bout d'une scène, tu sais. Mais, non, mais il y avait même des jeux qu'on faisait à quatre, là, tu sais, je veux dire, dans une scène où il y avait moi puis Léo puis Rita qui se parlent. En fait, les deux personnages représentent vraiment beaucoup les deux réalisateurs. Puis Philippe est très Rita, puis Marie-Hélène est très Léo.
Ah oui, OK.
Puis justement, des fois, on s'amusait avec ça, puis on était comme, OK, ben Marie-Hélène va juste me donner des notes à moi, puis Philippe va juste donner des notes à Marianne, puis les deux savent pas quelles notes ils vont donner à l'autre.
Des surprises.
Donc là, on se faisait comme des petites surprises, des mais c'était vraiment le fun de justement la peur qu'on avait de comment ils vont-tu donner des notes contraires, ils vont-tu pas être d'accord, ils vont-tu... Il y a rien de tout ça qui est arrivé. Je pense que le risque qu'ils ont pris à travailler à deux était un risque ultra calculé parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de danger à travailler à deux, les deux ensemble. Tu sais.
Mm-hmm. Puis ils ont des forces différentes. Puis...
Ouais.
Ouais. C'était vraiment, vraiment le fun.
Et je me demandais aussi, on a commencé en parlant de votre jeune carrière quand elle a débuté. Est-ce que justement, quand vous avez été des vedettes, je sais pas, vous aviez 12, 13, 14 ans dans vos premiers films, là, après ça, est-ce que vous avez leader vos carrières d'une certaine façon. De genre, ah, faut pas que je tombe dans un patois d'être toujours dans tel genre de film, dans telle affaire, ou vos agents étaient dessus. Hey, faut que vous alliez chercher une série télé pour, si tu veux pas juste crasher, puis qu'on n'entende plus parler de toi si t'as l'intention de continuer à être comédien, comédienne. Tu sais.
Je sais pas.
Ou même moi, encore aujourd'hui, comment moi, vous très... travaillez vos carrières.
C'est quand même calculer les projets sur lesquels je travaille. Mais toi, tu calculais bien des affaires, toi? Ou...
Mais je pense que ça dépend, parce qu'au début, je sais pas si tu peux te permettre de calculer tant que ça. T'sais, je veux dire, moi, au début, je me rappelle que j'étais comme, si je peux avoir la chance de travailler, puis je vais le faire, je vais l'essayer. Puis par la suite, après ça, mais tu sais, moi, c'est toujours vraiment guidé par l'histoire puis le scénario. Puis je veux dire, si j'aime l'histoire puis j'aime le scénario, je vais dire oui, mais si... Je veux dire, si l'opportunité semble magnifique puis je trouve que l'histoire est plate, ben je vais dire non, tu sais. Puis si je trouve que l'histoire est vraiment super le fun, mais ils ont deux pièces et quart puis c'est tourné dans un chalet, puis il n'y a pas d'argent pour rembourser ton gaz, là, tu sais, c'est comme...
On dirait qu'il parle de pareil, papa t'sais. Est devenu un lutin, là.
Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme, je pense que je suis tout le temps guidé par c'est quoi l'histoire puis c'est quoi le projet, tu sais, puis c'est comme ça. Puis je pense que oui, il y a un désir de jamais refaire tout le temps la même affaire. Puis moi, je sais que j'aime ça faire de la comédie, puis j'aime ça faire du drame, puis j'aime ça toucher aux deux, puis de jamais être tout le temps dans la même boîte pour justement pas tomber dans le même carcan. Fait que ça qui est calculé, tu sais. Mais c'est souvent quand le projet t'est proposé que je pense que c'est relié à l'amour que t'as pour le projet en tant que tel, tu sais.
Ben, le temps file. Oui. Fait que je vais vous remercier vraiment pour cette belle conversation. Encore bravo pour vos prestations dans le film. Vous êtes vraiment très touchant.
Merci.
Bon succès.
Voilà. Yeah. Merci beaucoup.
Alors, on reçoit dans le balado spécial Vous n'êtes pas seul les réalisateurs Philippe Vien et Philippe Lupien et Marie-Hélène Vien. Et également la productrice Fanny Malot. Alors, merci au trio d'être avec nous.
Merci.
Merci à vous.
J'ai lu que ce projet-là était vraiment de longue haleine. Vous avez travaillé une dizaine d'années dessus. Quelle était l'étincelle ou ce point de départ-là pour écrire cette histoire?
Du film. Oui,
oui.
Ça part de toi quand même.
Oui. Ben, au départ, ça venait d'une fascination pour les phénomènes un peu surnaturels liés aux extraterrestres et tout ça, mais surtout, en fait, une fascination pour les gens qui disaient avoir vu des ovnis, mais aussi avoir eu des rencontres du troisième type avec des entités extraterrestres, puis même des gens qui disaient s'être fait enlever. J'étais vraiment fasciné par ça, juste intrigué, intéressé par ça, puis on s'est mis à faire des recherches là-dessus, lire beaucoup de livres, puis aussi même aller jusqu'à rencontrer des gens, tout ça. Puis ça a comme débloqué quelque chose, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que la chose qui nous intéressait vraiment là-dedans, c'était l'espèce de parallèle entre la solitude, parce que la plupart de ces gens-là, ils ont un point en commun, c'est une espèce de vie solitaire ou une forme d'aliénation ou
isolé souvent, ouais. En retrait, là, beaucoup de gens en campagne.
C'est vrai qu'on n'entend jamais le PDG d'une grande compagnie qui s'est fait enlever. Non, là.
C'est plus rare. Mais donc c'est ça. Puis là, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, que le parallèle entre l'humanité seule dans l'univers qui reach puis qui envoie des signaux puis qui essaie d'aller chercher l'attention de peut-être une vie intelligente ailleurs versus nos solitudes respectives, il y avait quelque chose là-dedans. Puis c'est devenu de fil en aiguille après beaucoup, beaucoup d'années. Un film d'amour, en fait.
Ouais, puis j'imagine aussi que juste en visuel, une fois que tu te permets de mettre des extraterrestres dans ton film, tu peux aller... Le spectre est très large sur comment tu vas les démontrer qu'est-ce qu'ils vont faire, leur apparence, leur
langue, n'importe quoi. Ouais, puis tu sais, je pense que... Vu que la recherche a été basée sur vraiment genre avoir des vraies histoires de gens qui, chez eux... tu sais, nous, on venait de la Naudière, là, tu sais, comme d'avoir des gens dans leur chalet, dans leur cabanon, ou des trucs comme ça. Il y avait quelque chose de vraiment regardé à échelle humaine. Tu sais, malgré tout le cinéma américain des extraterrestres, on était comme, quand on lisait les histoires, on était comme, mais les gens, ils ont perdu un peu la notion du temps dans leur cuisine. Tu sais, c'est toutes des histoires dans le paranormal aussi, que des fois, c'est... Oui, des fois, il y a des lumières, il y a des trucs, mais c'est vraiment un ressenti. Puis je pense qu'on voulait avoir ce côté-là humain de ces histoires-là, plus que l'espèce de science-fiction à l'américaine. Puis il y a tout le rapport... au surnaturel, en fait, dans nos vies, puis d'essayer d'avoir comme d'utiliser cette métaphore-là, en fait, pour parler de solitude, puis de parler de rencontre, en fait, de vouloir quelqu'un qui est tout seul chez eux, puis qui se dit, hey, il y a une présence, ou il y a quelqu'un qui est débarqué chez nous. C'est cette idée de rencontre avec quelque chose d'autre. Puis, puis on voyait là-dedans, dans une rencontre aussi amoureuse, une espèce de voir l'autre pour, tu sais, de cette rencontre-là. Fait que c'est toutes des sortes de rencontres, en fait, qu'on essayait de mettre ensemble. Mm-hmm. Mais c'était vraiment l'idée de rester à échelle humaine là, dans tout le sci-fi, rester quand même low-tech. Puis on trouvait ça le fun d'explorer ça dans un... dans le cinéma québécois avec les budgets qu'on a aussi, on trouvait que c'était plus dans les idées. Donc, il y a un portail, il est comme c'est un frigo dans le film. Il y a tous ces trucs-là de le mettre quand même assez dans une réalité là, qu'on connaît. Là. Oui,
qui ajoute un côté un peu quand même funny à la chose.
Oui, très inusité, effectivement. Et Fanny, tu es embarquée dès le départ dans ce processus-là, tu les as accompagnées assez rapidement?
Assez rapidement quand même. On a fait 3 courts-métrages ensemble aussi, Philippe, Marie-Hélène et moi. Et le projet s'est développé au fur et à mesure de ces cours aussi. Donc ça faisait vraiment partie des discussions à ce moment-là. Donc oui, je pense que les premiers balbutiements ont vraiment été entre vous deux. Puis après ça, quand il y a eu une première idée à présenter en 2012, là, on a commencé à travailler en trio.
Puis, tu sais, ça arrive à l'occasion, là, je me souviens, c'était, j'oublie, mais le bruit des glaces, François. La fonte des glaces, excuse-moi. Que lui aussi, ça avait pris beaucoup de temps avant le financement de ce film-là et tout, Lynn Charlebois, mais... Est-ce qu'à un moment donné, il y a un découragement, ou même en tant que productrice, de dire, là, on devrait juste repartir à zéro avec autre chose, ou on continue, ou on met ça sur pause, on fait d'autres trucs, puis, tu sais, le 10 ans, c'est pas de l'écriture non-stop, j'imagine que...
Non, il y a 8 ans de financement sur les 10 ans de développement.
OK.
Avec des pauses, là, tu sais, c'est parce que justement, à un moment donné, vous êtes reparti en écriture pendant presque un an, justement, dans ce 8 ans-là. Tu sais, il y a eu beaucoup, beaucoup de pauses dans le 8 ans, là. Mais non, il n'y a jamais eu de découragement par rapport au projet. Il y avait beaucoup de frustration, je dirais, énormément. Parce que je ne comprenais pas comment le potentiel que j'y voyais n'était pas reçu. Et ça devenait très personnel. Parce que tu fais comme, attends, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que moi, je vois vraiment comment cette histoire-là peut exister, puis je vois vraiment la plus-value de ce mélange de genres-là, puis je suis hyper émue quand je lis ce scénario-là, mais qu'on le soumet et que ça revient de cette façon-là. Fait que je sais qu'au créatif, il y a eu du côté découragement beaucoup.
Oui.
Mais du côté prod, pour moi, ça le questionnement que j'ai plus eu à un moment donné, c'est de me dire, est-ce que c'est en train d'être de l'acharnement? Est-ce que je m'acharne justement par frustration et par désir de faire, bon, ben là, j'ai pas investi tout ce temps et cet argent pour que ça n'aboutisse pas?
Je pose une question. Tu t'es posé la question à un moment donné si c'était genre... par ego, genre, que tu faisais ça?
Oui, c'est ça. Est-ce que je m'acharne parce que je vais avoir raison, puis si moi je vois ça, ça va marcher. Puis... Mais à chaque fois, le film répondait. C'était vraiment ça. Je revenais on a beaucoup parlé de comment ces personnages-là existent, puis comment, quand moi, mettons, justement, les scénaristes partaient réécrire, je m'ennuyais des personnages. Et c'est le seul film qui m'a fait ça, de faire quand j'ai hâte d'y retrouver, j'ai hâte de retrouver Léo Rita, j'ai hâte de savoir dans quelle nouvelle incarnation je vais retrouver, puis qu'est-ce qui va avoir changé. Et donc, ça répondait, en fait, à ma question de « OK, non, c'est pas de l'ego, parce que je pense que si je suis autant habitée, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il faut s'entêter positivement à amener au public. »
Oui, puis de notre côté, ces 10 ans-là, tu sais, Marie-Hélène n'a jamais vraiment arrêté d'écrire le film pendant ces 10 ans-là. Mm-hmm. C'est à chaque fois... Les 8 ans de financement, dans le fond, c'est des réécritures non-stop pour essayer d'ajuster, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, essayer de... Ça, c'est vraiment... C'est fait de notre bord, ben surtout, je parle pour toi, là, surtout du bord de Marie-Hélène, c'était un peu sans arrêt, là, évidemment, avec d'autres projets en même temps.
Ouais. Oui, ça a été vraiment intense, mais tu sais, je pense aussi... Oui, il y a eu du découragement, là, tu sais, s'est demandé... Parce que dans l'idée d'un premier long-métrage, il y a ça aussi de... C'est-tu le bon projet? C'est-tu le bon film pour un premier long? On devrait peut-être faire quelque chose de plus simple. On s'est beaucoup questionné là-dessus parce que le mélange de genre était comme difficile à défendre. Pourquoi avoir cette histoire d'amour-là puis d'utiliser la métaphore extraterrestre pour exprimer quelque chose? Les gens étaient comme... Vraiment? Est-ce que c'est ça qui était dur à convaincre avec pas un bagage, pas un, 2 films en arrière de la cravate. Là, fait que c'est ça qui était difficile à défendre. Fait que nous, on s'est beaucoup questionné sur est-ce que c'est le bon projet, est-ce qu'on le met de côté pendant quelques années puis qu'on y revient.
Mais moi, je suis quand même quelqu'un d'intense. qui est.
Une tête de cochon.
J'étais pas capable de laisser tomber le film. J'étais comme pas capable. Tu sais, j'essayais de prendre des pauses puis essayer d'arrêter de l'écrire. Puis ça spinait dans ma tête. Puis fait que tu sais, il y a quelque chose aussi de cet acharnement-là d'essayer d'aller jusqu'au bout. Puis à un moment donné, ça, dans les refus, tu sais, il y a quelque chose qui devient, mais attends, OK, je me suis pas assez bien exprimée. Je vais essayer de. C'est quoi l'autre angle que je peux prendre? Comment je peux me faire comprendre? Comment je peux. Tu sais, tu le sais, c'est difficile, puis on l'entend beaucoup, là, c'est difficile pour beaucoup de cinéastes. Fait que là, t'es comme, OK, mais. Tu sais, tu te mets à parler avec d'autres cinéastes, puis comme, OK, c'est quoi, toi, ton angle? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Qu'est-ce qu'ils étaient à faire? Tu sais, ça devient comme une espèce de même de communauté de. Des gens qui se font refuser. Comment
la solidarité dans le refus.
La solidarité. Puis c'est ça, je pense, ça nous a quand même drivé là, de continuer. Puis de...
C'est vrai, le nombre de bières avec des fellow réalisateurs, réalisatrices, des bières de refus, là, le lendemain des réponses, on a toute la face longue, on boit une coupe de bière, on se rejoint quelque part, on chiale, ça faisait du bien, ça.
Mais tu sais, ce qu'il faut savoir aussi, je pense que dans la stratégie, justement, de, quand tu dis est-ce que ce serait le bon projet pour être notre premier long-métrage, stratégiquement, on sait compliquer la vie dans le sens où faire un mélange de genres pour un premier long, c'est un défi supplémentaire parce qu'en effet, comme tu dis, ça arrive sans carte de visite. Donc, l'idée de comment s'exprimer, comment réussir à faire passer que l'espèce d'acte de foi, de croyez-nous, ce mélange-là va fonctionner, est un défi supplémentaire. Mais il n'y a pas de film qui pouvait plus vous représenter que ce film-là comme premier long. Fait qu'il y a ça qui fait comme, OK, oui, c'est un défi supplémentaire, mais c'est ça. C'est ça qu'il faut.
Qu'on veut faire.
Et en quoi l'intrigue a-t-elle évolué au fil des réécritures? Est-ce que ça a beaucoup changé quand même?
Ouais.
Quand même, il y a comme deux... Il y a comme surtout eu deux... C'est comme un genre de reset à un moment donné. Là. Il y a comme les cinq premières années puis les cinq autres, là, comme, si on pourrait le diviser à peu près comme ça. On travaillait beaucoup... On écrivait ensemble, en fait, dans les cinq premières années. Là, c'était vraiment de l'écriture à quatre mains. Le film était un petit peu plus gros, un petit peu plus concentré aussi sur le... Vraiment plus vers les extraterrestres puis la communauté aussi des gens qui étaient ufologiques et tout ça. Il y avait des personnages là-dedans. Puis il y avait quand même une histoire d'amour qui était là, mais c'était moins John, mettons, incarné plus dans un personnage, mais plus dans une communauté aussi. Puis à un moment donné, après deux dépôts, la SEDEC... où ça s'était pas bien passé, on s'est fait un peu dire que le projet se ferait probablement pas, à moins d'une réécriture. C'est là où moi, j'ai ramené le film vraiment vers moi. Là, on a arrêté d'écrire à deux. C'est moi qui s'est mis à écrire toute seule pour vraiment faire un film hyper personnel. Puis là, il y a comme eu une réécriture quand même majeure, là, de puis focusser, en fait, de comment on peut faire cette histoire-là la plus simple possible puis concentrer le récit sur les personnages. Puis c'est devenu comme ça notre espèce de mantra, le personnage, personnage, personnage. Puis on est vraiment concentré ça là-dessus. Puis là, il y a comme cette incarnation-là.
Puis c'est là où je dois vraiment leur lancer des fleurs, même s'ils sont là. Mais c'est un des éléments que je trouve le plus fascinant de leur travail de créateur. C'est-à-dire qu'on a un mur qui se présente devant nous, qui est un refus SEDEC qui dit à la hauteur du budget que vous demandez, ce projet-là, ça se passera pas. Beaucoup des cinéastes avec qui je travaille, ça aurait été « mais pourquoi? » Puis il faut trouver une façon. Mais Marie-Hélène et Philippe, ça va être comme « OK, attends, comment est-ce que devant ce défi-là, on peut trouver encore plus précisément le film qu'on veut faire? » Et donc, ils sont partis un an avec cette réflexion-là, puis ils sont arrivés avec la nouvelle incarnation, donc qui était presque 2 millions plus bas.
On n'avait pas cette attitude-là au moment où on a eu le refus. ça met quelques bières.
mais c'est vraiment, tu sais, c'est tout à leur honneur, puis vraiment impressionnant de voir, parce que ça a été ça à tous les points de vue après ça pour le film. À chaque fois qu'il y avait un mur, à chaque fois qu'il y avait un obstacle, c'était comment cet obstacle peut nous amener à préciser encore davantage le film qu'on veut faire. Fait que c'est extraordinaire comme collaboration, parce que ça fait aussi que moi, j'ai juste envie d'enlever le plus d'obstacles possible, parce que je sais que chaque obstacle va amener cette giga réflexion-là, mais les obstacles, en même temps, font grandir le film. Mm-hmm. Fait que ça... C'est ça.
Mm-hmm. Mais justement, c'est un bon pont vers où je veux aller. Le film est incroyablement beau. Puis je veux pas que ça sonne mal, c'est vraiment un commentaire, mais je trouve qu'il est plus beau que ce qu'il devrait être. C'est-à-dire qu'en direct, tu sais, les décors, la direction artistique, tout le set-piece, il y a quelque chose d'un peu minimaliste là-dedans. Ouais. Tu sais, en plus, que c'est pas, ils n'ont pas des appartements de fortunés de penthouse et tout. Mais toutes les shots, l'éclairage, tout sort vraiment bien, les jeux de caméra. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez un peu en tête dès le début, ou on fait juste se mettre avec les bons directeurs artistiques, directeurs photo, puis on les laisse aller?
C'est vraiment quelque chose qu'on avait en tête dès le début. L'esthétique dans ce qu'on fait est super important, puis prend beaucoup, beaucoup de place. Mais en même temps, avec l'apprentissage puis tout le temps que ça nous a pris entre notre dernier court-métrage et notre premier long, on a aussi découvert que on avait comme une espèce de... On était attiré par quelque chose d'un petit peu plus naturaliste, un petit peu plus groundé que ce qu'on avait fait en court-métrage, où c'était vraiment... L'esthétique prenait beaucoup, beaucoup de place. Puis on s'est entouré de gens qui avaient cette espèce de sensibilité-là. Ariel Méthode à la direction photo, Éric Barbeau à la direction artistique, puis plein d'autres. Puis ces gens-là nous ont aidés à justement... Tu sais, nous, on focussait beaucoup sur l'esthétique et tout ça, mais en même temps, ils nous ont aidés à pousser notre espèce de vision qu'on avait. Puis même au scénario, tu sais, Marie-Hélène mettait des indications de lumière, des couleurs, même des trucs de texture un peu, puis de décor, pour vraiment raconter l'histoire. Puis tu sais, nos concepts visuels sont relativement simples. On joue avec le chaud, le froid... donc, même chose avec les couleurs, avec les éclairages et tout ça. Puis on s'amuse avec ça. Puis,
Ouais, puis je pense qu'on voit, tu sais, c'est super important pour nous d'utiliser le médium du cinéma dans chacune des sphères, en fait, dans chacun des
départements.
Puis de le voir un peu comme un personnage, puis faire comment on fait pour que ces départements-là, comme mis ensemble, racontent quelque chose. Fait que tout doit raconter quelque chose. Chaque maison, tu sais, le condo de Rita dans son demi-sous-sol, c'est choisi que c'est un demi-sous-sol. C'est le genre de... Tout ce qui est là, puis tu sais, on sait avec Éric Barbeau, d'essayer de raconter c'est qui cette fille-là dans son décor, dans ses vêtements avec Caroline Bunsen, de tout arriver à comme raconter ce qu'on n'est pas capable de raconter avec l'histoire, mais de nourrir le spectateur pour que quand tu regardes une image, tu reçois quelque chose que tu n'es pas capable de t'expliquer, mais tu sais, tu connais la personne, il y a des références où tu es là, puis on est comme, comment on peut être le plus généreux possible puis te raconter le plus, parce que c'est ça le médium, en fait, c'est ça le cinéma. Fait qu'on fait ça avec la lumière, on fait ça avec tout, puis avec la musique, avec le son, puis c'est vraiment important pour nous, puis on aime l'espèce d'artisanat, puis tu travailles avec des gens pour qui, genre, c'est comme son... tellement bon dans ce qu'ils font, tu sais, que nous, on pourrait pas faire ça, mais de travailler en collaboration avec eux puis d'amener ça vraiment plus loin, tu sais, c'est vraiment un énorme plaisir qu'on a, là, de faire ça, là.
Puis, tu sais, par rapport à ce que tu dis, que c'est trop beau par rapport à ce que ça devrait être, c'est exactement ça qu'on voulait, en fait. T'sais, on veut un peu magnifier la réalité, tu sais, raconter l'histoire de gens ordinaires, tu sais, justement pas... De la rich people porn, là, tu sais, des gens qui ont des super de beaux meubles design puis qui vivent des grands drames d'avocats, là. Genre des histoires de livreurs de pizza puis de gens qui travaillent dans des agents de voyage puis sont un peu tout croche puis ils ont pas trop de but dans la vie, mais ils ont de la misère à s'exprimer aussi, mais en même temps, ce qu'ils vivent, c'est énorme pour eux. Ben, tomber en amour, c'est énorme. Se faire visiter par un extraterrestre, c'est énorme. Puis on a juste voulu transmettre ça autant dans le visuel autant dans la forme que dans le fond.
D'où vient l'idée d'utiliser la chanson Hélène de Rock Voisine? Et Fanny, est-ce que ça a été dur de le faire accepter?
En fait, Hélène, c'est vraiment... C'est une belle histoire d'amour, je pense que je pourrais le dire comme ça, parce que j'ai libéré la musique sur presque tous les films que j'ai produits parce que je trouve que c'est plus simple. On s'était posé la question.
C'est quelque chose que tu peux sous-traiter?
Oui, okay. Oui. Et c'est quelque chose que j'aime. Puis je trouve que quand on travaille avec les ayants droit, mais petite parenthèse, mais quand on travaille avec les ayants droit directement, il y a une façon de les faire participer à la création du film qui souvent est beaucoup plus... qui, à mon sens, à moi, je n'ai pas du tout le travail des gens qui font ça, là, mais que j'en profite beaucoup et que le film en profite beaucoup. Et on s'est posé la question pendant tout le développement du film, est-ce qu'on approche l'équipe de Rock Voisine en amont ou pas? Puis là, la question de oui, mais tout d'un coup, qu'ils disent non en théorie, puis là, c'est tellement une partie narrative dans le film, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fait qu'on a pris le pari d'attendre que le film soit financé avant de poser la question. Je pense que le lendemain du oui Sodec, je me mettais sur le dossier d'Hélène.
Post-it sur la machine à café.
Très post-it dans ma tête. Et on a vraiment monté un dossier en collaboration, en fait, avec Philippe, Marie-Hélène et moi pour pas juste envoyer une demande de libération de droit, mais vraiment envoyer une présentation du projet. Mm-hmm. Et parce que je me doutais bien que, d'un, on n'aurait jamais les moyens de se la payer à le tarif que ça devait être. C'était une utilisation. Il y avait 7 utilisations dans le film. Il y en a...
Et c'est ça, je me demandais, parce que quand le film commence, au début, c'est un petit cover de ukulélé qui apprend. Après, il y a quelqu'un qui siffle la mélodie. Puis je me disais, ah, c'est-tu moins cher ou c'est-tu sans frais. Puis là, éventuellement, la fin, on en parle pour vrai. Puis l'utilisation, puis j'ai dit, OK, c'est
un... Ouais. Non, c'était vraiment cette
c'est
utilisation.
C'est ça, tu peux pas siffler un thème connu dans un film, puis que ça passe...
Ça demeure une utilisation de... Il y a du droit d'auteur sur toute utilisation. Tu chantes Bonne Fête dans un film, il faut que tu payes Bonne Fête.
Il y a quelqu'un qui a Bonne Fête?
Plus maintenant.
C'est...
Mais ça doit dépendre. Oui, parce que j'ai fait un TV movie où je me suis fait chicaner parce qu'on n'avait pas chanté Bonne Fête, puis tout le monde m'a dit « Ah, comment ça, personne ne chante Bonne Fête? »
Bon, ben écoute, formidable. Maintenant, Bonne Fête est libre de droit, tout le monde.
Je veux pas dire personne en erreur.
Mais Bonne Fête et Joyeux Anniversaire, c'est pas la même. Peut-être.
Ouais, c'est ça, là.
C'est vrai.
Mais donc, voilà. Donc, on a envoyé ce dossier par le biais de la SOCAN à l'équipe de Rock Voisine. Et on a eu un retour de son agent, en fait, qui nous a dit assez rapidement, écoutez, Hélène, ça ne se libère pas. Nous n'avons jamais dit oui à personne. On a eu des offres de plusieurs milliers d'euros en Europe pour de la pub, pour du long-métrage.
Bon.
Il dit, Hélène ne se libère pas. Mais, là au mai, on a tous été en suspension. On ne sait pas pourquoi on a envie de comprendre. Il y a quelque chose, Mario Lefebvre, qui est l'agent de Rock, dit, bon, j'ai appelé ma compagnie Flair parce que j'ai toujours cru au Flair. Et Gary McIntyre, qui gère le catalogue, merci, j'allais dire le portfolio, je ne sais pas ça, le catalogue de Rock, a flagué ça. Et donc, si lui l'a flagué, c'est qu'il y a quelque chose là. Et ça en est suivi donc vraiment des semaines, voire des mois de, pas de négociation, mais vraiment de collaboration pour voir comment est-ce que eux pouvaient être bien avec cette utilisation-là. Et ça en est venu que pour eux, c'était vraiment un personnage du film. Et c'est vraiment comme ça que Marie-Hélène l'avait présenté dans sa lettre aussi. Et donc, c'était pas une demande tant d'utilisation de la chanson, mais c'était plus une demande de collaboration créative. Et c'est vraiment comme ça qu'ils l'ont approché. Ça, au bout de 3-4 mois de back and forth, on a trouvé vraiment un terrain d'entente tant financier, parce qu'ils ont quand même dit là, comme tu veux quand même un petit peu monter le préliminaire que tu nous as fait, mais qui est très 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 raisonnable pour la chanson qu'on a eue, là, plus que raisonnable. Et donc à ce jour, vraiment, dans nos remerciements justement à la première hier, autant Marie-Hélène Philippe que moi, ça a été l'une des équipes qu'on a remercié avec le plus d'émotion, parce que c'est complètement inattendu.
C'est au-delà de juste libérer les droits.
Oui, parce qu'ils sont devenus vraiment des champions du film. Je veux dire, ils ont voulu faire de la promo avec nous, parce que ça a donné que c'est les 35 ans d'Hélène cette année. Donc, que Rock fait une tournée Hélène 35 ans plus. Ils nous ont aidés, ils ont carrément facilité la discussion pour prénégocier avec Audiogramme pour qu'on puisse sortir la musique du film sous l'étiquette Audiogramme, incluant Hélène sur l'album. Fait que c'est vraiment ça a changé, ça a changé nos parcours.
Et nous, on n'avait pas de plan B là.
C'est ça, j'avais demandé, tu sais, que tu fais à contre-cœur, mais que t'es quand même...
Moi, cette chanson-là, c'est comme la première chanson quand j'étais petite qui m'a marquée là, tu sais. C'était comme, j'avais mon Walkman rouge avec ma cassette, puis je l'écoutais en boucle avant de me coucher, puis c'était vraiment, je m'identifiais aux paroles de la chanson, tu sais, j'avais pas envie non plus, moi, de perdre mon ami, tu sais, il y avait comme quelque chose de, comme, tu sais, je voyais pas nécessairement l'amour, là, parce que j'étais jeune, mais c'est vraiment une chanson hyper émotive pour moi, vraiment, tu sais, chère, puis qui m'a suivie après dans ma vie, tu sais, comme... Puis c'est ça un peu que j'avais dit, puis c'est pour ça que le personnage de Léo, qui est comme très proche de moi, il y avait quelque chose de comme... S'il est tout seul chez eux, puis qu'il est pas bien, puis comme il veut chanter sa solitude, pour moi, il y avait quelque chose avec Hélène qui était comme une évidence, tu sais. Fait que non, il n'y avait pas de plan B, puis, je suis tellement reconnaissante. C'est ce que je disais hier, là, je suis comme tellement reconnaissante, comme j'en reviens pas encore que ça s'est passé. C'est... Mais oui, incroyable.
Et tu as eu la chance de le diriger en plus sur un plateau. Et
oui,
même.
en plus.
Ça, c'est un spoiler.
Mais oui,
qui est sorti un peu quand même, là, mais bon. Mais oui, ben ça, c'est exceptionnel.
Oui, puis tu sais, c'est vraiment le fun de pouvoir...
Est-ce que c'est venu de lui de dire, ah ben moi, je vais venir une journée?
Oui, c'est venu de son équipe, c'est eux qui ont proposé. Et ça serait vraiment le fun s'il pouvait peut-être avoir un caméo, je sais pas ce que vous en dites. Puis là, nous, on était comme, OK, ben il y a juste un endroit dans le scénario où ça peut arriver, fait que...
Parce qu'en faisant des recherches aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de témoignages d'enlèvements extraterrestres, les extraterrestres enverraient des espèces d'images rassurantes, de projections rassurantes pour essayer d'amadouer puis d'enlever de la peur à leur, aux gens okay. qui approchent. Donc souvent, c'était comme, mettons, un enfant, c'était un vendeur de crème glacée ou quelqu'un qui connaisse tout ça. Donc on a pensé à Rogue Voisine pour le personnage de
Léo. Puis aussi, dans le fameux film Contact avec Jodie Foster, là, genre ouais, quand il y a des barques, c'est son ouais. père qui est là. Exact. Donc c'est exact.
Et un petit mot sur les comédiens, dans les choix de Pierre-Luc et oui. Marianne et François. Qu'est-ce que vous avez vu en eux pour votre film?
Ben en fait, c'était vraiment à l'écriture du scénario. Là. Moi, j'aime ça, quand j'écris, avoir quand même rapidement des comédiens en tête. Là, j'aime ça leur voler des tics, des sourires, des trucs. Je sais pas, j'aime ça voir les personnages chez les comédiens. Fait que s'il y avait quelque chose de j'ai vu eux. Je pense qu'il y avait comme une... Et chez Marianne et chez Pierre-Luc, une espèce de mélancolie. Je trouvais ça le fun d'avoir comme... De pouvoir autant aller dans... Ben surtout chez Pierre-Luc, là, au départ, là, il y avait vraiment de pouvoir passer du drame au comique, mais de comme... De rendre ça 3D, d'avoir une complexité, de croire à cette espèce de solitude-là, de cette tristesse-là qu'il y avait en lui, mais en même temps, une espèce de légèreté, puis de pouvoir passer d'un à l'autre. C'est vraiment un comédien qui a comme beaucoup de talent puis beaucoup de profondeur dans son jeu. Puis une espèce de tristesse dans le regard, je sais pas, il y avait quelque chose dans son espèce de... dans sa dégaine aussi, il y avait vraiment de quoi que j'étais comme si c'est vraiment lui, Léo. Après ça, de trouver la Rita, en fait, qui était pour fitter avec lui. Puis Marianne, elle avait quelque chose aussi de ça, cette mélancolie-là. Là, elle a vraiment comme... De quoi qui est comme vraiment le fun. Puis on a découvert en plus une espèce de... Tu sais, un côté comme quand même drôle et dans l'humour, il est capable de jouer. Quelque chose de très physique aussi, dans le malaise et dans le non-dit. Mm-hmm. Puis qu'il y avait vraiment comme ça aussi qui nous a vraiment beaucoup touchés. Puis après ça, tu sais, François Papineau, il y avait vraiment de trouver quelqu'un qui était game, de jouer aussi physiquement, puis d'être à moitié tout nu, là, quasiment, être en bobette une grosse partie du film, puis d'être capable d'aller jouer physiquement, puis tu sais, mm-hmm. François, il a fait du théâtre expérimental, tu sais, il a fait vraiment beaucoup de trucs, d'avoir cette espèce de charisme aussi, de qu'on peut autant avoir peur de lui, mais qui tout d'un coup est capable de switcher rapidement, puis qui est hyper attachant et vulnérable. Il y a une espèce de profondeur là-dedans qu'on trouvait vraiment intéressant. Là.
C'est-tu un vrai bain de glace qu'il prend d'ailleurs
Il voulait prendre un vrai bain de glace parce qu'il habite sur le bord d'un lac où il prend tout le temps des bains froids l'hiver.
Ah, OK.
Mais, non, mais l'eau était très froide par contre. Oh, oui, c'était pas un bain de glace, mais l'eau était très froide.
Puis, t'as parlé, Fanny, tantôt de la trame sonore. Est-ce qu'on va pouvoir se procurer un coton ouaté Bourgogne de Pizzeria Marcoux quelque part? Je les trouve très beaux.
J'aimerais s'en avoir un, moi aussi.
Non, vous n'avez même pas pu...
Mais j'ai une casquette, par contre.
C'est ça, c'est pas une vraie pizzeria. Vous avez fait non, deux, mais... trois items.
Oui,
puis,
oui, exact. Okay,
c'est Sandrine qui a gardé...
Non, on a quelques...
Nous, on en a chacun une, puis je pense que Pierre-Luc en a une. Je pense qu'il y avait juste comme trois exemplaires de la casquette.
C'est ça, il n'y a pas...
J'en ai une sur mon mur de bureau.
Ah oui, c'est vrai, toi aussi, Sandrine.
Mais c'est ça, puis... Mais... En tout cas, on checkera parce qu'on se fait beaucoup demander des items puis derrière Marco.
Non, je vais surveiller Marketplace si jamais je vois que vous décidez de vous en départir.
Le prochain film.
Voilà. Ben, merci beaucoup l'équipe. Puis on souhaite le meilleur des succès, que tout le monde aille voir. Vous n'êtes pas seul.
Merci beaucoup.
Merci.